SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 5 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le point sur la semaine politique en Australie. Et on parlera aussi du Melbourne Cup avec le professeur John Maynard, historien de renom spécialisé dans l'intersection de l'histoire des Australiens autochtones et du sport, en particulier des courses de chevaux. On passe à l'actualité de ce 5 novembre. Au sommaire de ce bulletin, jour J aux États-Unis. Au moins 75 millions des voteurs américains ont déjà voté par anticipation. Le vice-premier ministre australien Richard Marles a déclaré que l'alliance entre les États-Unis et l'Australie resterait forte quel que soit le résultat des élections. Et puis les défenseurs des Premières Nations exhortent le Premier du Queensland à rétablir l'enquête sur la vérité. Au moins 75 millions des voteurs américains ont déjà voté par anticipation. Cela représente plus de 48% du nombre total de personnes ayant voté en 2020, les 154,6 millions d'électeurs. Dans une répétition des tactiques utilisées en 2020, Donald Trump a prétendu sans fondement que l'élection de 2024 lui était volée. Les républicains posent déjà les bases d'un rejet du résultat de l'élection présidentielle en cas de défaite de Donald Trump avec des poursuites judiciaires précoces alléguant une fraude. Donald Trump a déclaré à ses partisans en Pennsylvanie qu'il n'aurait jamais dû avoir quitté la Maison-Blanche en 2020.
« We had the best economy ever, we had the wall, we had everything. » I built over 500 miles of wall. They don't even talk about the wall. But we had the best border, the safest border. I won't pull down my world's favorite chart because I don't want to waste a lot of your time. But my world's favorite chart, done by the Border Patrol, it said we had the safest border in the history of our country the day that I left. I shouldn't have left. I mean, honestly.
Dans le Michigan, la vice-présidente Kamala Harris a promis de tourner la page après 10 ans de politique motivée par la peur.
We are not going back. We are not going back. Because ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom.
Des milliers de femmes se sont rassemblées dimanche à Washington, D.C. et ont marché vers la Maison-Blanche. Près de 10 000 femmes sont venues de tout le pays dans un dernier effort pour manifester en faveur de l'avortement légal et exprimer leurs sentiments avant l'élection d'aujourd'hui. Le candidat républicain Donald Trump s'est attribué le mérite d'avoir nommé les juges qui ont contribué à annuler la décision historique de 1973, Roe vs. Wade, mettant fin à un droit fédéral l'avortement de près de 50 ans en 2022. L'adversaire démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris a fait de l'avortement l'une des principales promesses de campagne dans sa tentative d'atteindre la Maison-Blanche. Le vice-premier ministre australien Richard Marles a déclaré que les relations entre l'Australie et les États-Unis resteraient solides, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle ce mardi. Marles est convaincu que le projet de plusieurs milliards de dollars de l'Australie d'acheter des sous-marins nucléaires américains sera sans danger, quel que soit le résultat. Alors que la campagne entre dans sa dernière journée, les sondages montrent que Trump et Harris sont au coude à coude dans la course à la Maison-Blanche. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré que l'alliance entre les États-Unis et l'Australie resterait forte.
Our alliance with the United States is fundamental to our national security, really is the cornerstone of our worldview, of our foreign policy, and it will be there no matter who wins the next presidential election. And that is fundamentally a matter for the American people.
Et puis les derniers jours de la campagne électorale à l'île Maurice, les élections générales auront lieu dimanche prochain 10 novembre. Une campagne marquée ces derniers jours par un blocage de 24 heures des réseaux sociaux. Le point sur les grands meetings politiques de dimanche dernier avec Abdullah Erali pour Radio France Internationale.
Devant des milliers de partisans au drapeau orange réunis dans la ville de Vakua, le premier ministre sortant Pravin Jugnauth, 62 ans, a promis de nouvelles mesures populaires s'il est réélu. Leader de l'Alliance du Peuple, il a annoncé notamment une réduction de la taxe sur les produits alimentaires ainsi que l'introduction d'un 14e mois de salaire. Ce rassemblement marque une tentative de reprendre le contrôle de sa campagne électorale ternie par le scandale des écoutes téléphoniques et la diffusion de conversations sensibles qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux. La situation a pris une tournure critique lorsque son gouvernement a suspendu les réseaux sociaux vendredi matin, ce qui a déclenché une vague d'indignation nationale et renforcé la position de l'opposition. L'opposition qui rassemblait pour sa part ses partisans dans la capitale sous la bannière de l'Alliance du Changement menée par Navin Ramgoolam. Devant une foule de partisans aux couleurs rouge et mauve, l'ancien premier ministre de 77 ans a dénoncé la censure sur les réseaux sociaux et se présente pour un quatrième mandat.
As one people, as one nation.
Plus d'un million d'électeurs se rendront aux urnes dimanche 10 novembre pour élire 62 députés avec un mandat de 5 ans.
En Australie, le chef du renseignement australien a déclaré qu'il y avait eu 9 cas de terrorisme, de perturbation ou d'incident en 2024. Le directeur général de l'ASIO, Mike Burgess, a déclaré qu'aucun des complots n'était lié aux événements au Moyen-Orient.
So far this year, there have been 9 attacks, disruptions or suspected terrorist incidents in Australia. In our assessment, 1/3 of the incidents involved religiously motivated violent extremism. The majority of incidents were allegedly motivated by nationalist and racist ideologies or mixed ideologies. Importantly, because this is often misunderstood, none of the attacks or plots were directly inspired by the conflict in the Middle East.
Le gouvernement albanaise annoncera ce mardi le plan de main-d'œuvre de la défense 2024, un programme de recrutement et de rétention de 600 millions de dollars visant à limiter les départs de la force de défense australienne. Lancé en 2023, le projet offre des primes de 50 000 dollars au personnel permanent approchant la fin de sa période de service s'il s'engage pour 3 années supplémentaires avec près de 80% d'adhésion, plus de 3100 personnels ont choisi de rester depuis le début du programme. Le premier du Queensland, David Crisafulli, défend sa décision de mettre fin à l'enquête sur la vérité. Le nouveau premier libéral élu a été critiqué par des groupes des Premières Nations et des survivants de la génération volée pour avoir suspendu l'enquête de l'État sur la vérité. Crisafulli a également déclaré qu'il n'avait pas parlé à Josh Crima, qui préside l'enquête. Cependant, il a déclaré que son gouvernement annoncerait bientôt des politiques qui bénéficieraient toute la population autochtone du Queensland.
We campaigned and said that we wouldn't be progressing with that, but I didn't use inflammatory language. I didn't seek to divide. We explained our reason behind it, and I we'll be having more to say in the weeks to come about some of the things that we'll be doing for Indigenous Queensland.
De nombreuses organisations des Premières Nations, des droits de l'homme, des organisations éducatives et juridiques ainsi que des citoyens ont exprimé leur consternation et demandé au Premier du Queensland de reconsidérer sa décision et beaucoup d'entre elles ont demandé qu'il les rencontre. Le psychologue Clinton Schultz, directeur de la stratégie des Premières Nations au Black Dog Institute, a déclaré sur NITV que la décision du Premier ressemblait à une attaque immédiate contre les peuples autochtones du Queensland.
The perception that is left with us is that our social and emotional well-being, that our well-being for us now and our children and our children's children into the future are of less relevance and less importance to the now current government. You know, truth telling is more than just about recounting history. You know, the whole process is about helping us to heal the wounds from the past and to look at how we can build a stronger future based on an accepted truth.
Le Parti travailliste a déclaré que la réduction de 20% de toutes les dettes liées au HEX, les prêts étudiants, serait sa première mesure s'il était réélu pour un second mandat. Le plan effacerait environ 16 milliards de dollars de dettes étudiantes pour environ 3 millions d'Australiens. Par ailleurs, le Parti travailliste promet également d'introduire 100 000 places gratuites dans les TAFE à partir de 2027 s'il remporte les élections générales. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que cette réduction signifie qu'un diplômé universitaire pourrait voir ses dettes ex réduites de 5 500 dollars. Les économistes et les experts politiques qui évaluent le coût de cette politique affirment que le coût global sera supporté par les contribuables. L'économiste indépendant Chris Richardson a déclaré sur SBS News que le coût ne sera pas bon marché.
Somebody always pays. This is essentially a tax cut, but only if you went to university. And ultimately, that gets paid for by the people who didn't go to university. And given that some student debt is never repaid anyway, that the people who are least financially successful, this is quite a sharp subsidy from the less well-off to the better-off.
Plusieurs universités de Nouvelle-Galles du Sud ont lancé des programmes de sécurité aquatique pour préparer les étudiants internationaux à leur expérience à la plage. L'université de Nouvelle-Galles du Sud a lancé le programme Beach Ocean Safe pour enseigner aux étudiants les premiers secours de base et les techniques de natation. L'été dernier, Royal Life Saving Australia a enregistré 99 décès par noyade, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Environ 90 000 personnes devraient se joindre à la Melbourne Cup aujourd'hui, mardi, alors que la course qui arrête le pays débute, The Race That Stops the Nation. Mais la popularité de l'événement n'a cessé de diminuer ces dernières années en raison des préoccupations concernant le bien-être des animaux et des jeux de hasard. En 2022, un montant record de 776 millions de dollars a été misé sur des événements associés au Melbourne Cup Carnival. Certains acteurs du secteur, comme la nouvelle directrice générale du Victorian Racing Club, Kylie Rogers, mettent l'accent sur les attractions musicales et la mode. Un aperçu de la météo pour ce mardi en Australie, Perth. Averse ou 2, 22 degrés. Adélaïde, averse également 30 degrés. Melbourne, ensoleillé, 26 degrés. Hobart, généralement ensoleillé, 22 degrés. À Canberra, il sera nuageux, 27 degrés. À Sydney, les averses possibles, 23 degrés. Brisbane, partiellement nuageux, 32. Darwin, généralement ensoleillé, 35 degrés. Et à Alice Springs, partiellement nuageux, 41 degrés. Voilà, fin du journal. Vous savez tout maintenant sur SBS News en français. 13h14 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On passe au journal des sports en compagnie de notre collègue Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute, une fois n'est pas coutume, avec de la Formule 1. Très beau résultat des équipes françaises, de l'équipe Alpine, donc deux Français pilotes engagés dans ce championnat du monde, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Esteban Ocon finit deuxième de ce Grand Prix et Gasly finit troisième. Deux Français sur le podium, ce n'était pas arrivé depuis 27 ans en Formule 1. On écoute la réaction plutôt contente de Pierre Gasly.
C'est historique. Franchement, un doublé pour nous, P2, P3, avec la saison qu'on a, c'était inespéré. C'est difficile de trouver les mots. Je suis vraiment super heureux pour toute l'équipe. Ah, c'est incroyable.
Pierre Gasly, donc pilote chez Alpine, qui restera chez Alpine la saison prochaine. Esteban Ocon pilotera chez l'Américain de Haas. La victoire est revenue au Néerlandais Max Verstappen. Il domine complètement son plus grand rival au championnat du monde, Lando Norris. Max Verstappen pourrait même être sacré champion du monde dès la prochaine course à Las Vegas. Il lui suffira juste de finir devant Lando Norris, à n'importe quelle position, du moment qu'il est devant lui et dans les points, bien entendu. Allez, on fait un point sur le football et la Ligue 1 en France. Les résultats avec Antoine Grenier.
Le club phocéen qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Nantes dimanche soir en clôture de la 10e journée. Un OM porté par ses recrues Neil Mopay et Mason Greenwood, auteurs des deux buts marseillais, tandis que le Zimbabwéen Tino Kadewere avait brièvement donné de l'espoir aux Nantais en égalisant à un partout. Côté marseillais, le milieu danois Pierre-Emile Højbjerg savoure ce rebond après la déroute face au PSG une semaine plus tôt.
Magnifique, magnifique, et c'était un match quand même très dur et très, très intense. Félicitations à Nantes pour faire un bon match, pour vraiment nous faire des difficultés. Je trouve qu'on a assumé le match comme on pouvait et on a encore des choses à améliorer, mais l'attitude et comment on s'est battu, comment vraiment on s'est remonté, honnêtement, aujourd'hui je suis très fier d'être avec cette équipe.
Pierre-Emile Højbjerg avec nos confrères de DAZN. L'OM à 6 points de Paris ce matin, mais qui passe devant Monaco à la différence de but. Une 10e journée qui aura vu Rennes couler face à Auxerre. Toulouse s'imposer sur Reims grâce au but du Marocain Zakaria Bourlal. Et enfin, le Havre enfoncer encore un peu plus Montpellier avec un succès, 1-0.
Antoine Grenier, donc au classement, vous l'aurez bien compris. Le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 26 points. Marseille, 2e, on vient d'en parler, avec 20 points. Ex aequo avec Monaco, 20 points également. Lille est 4e avec 18 points et Nice est 5e avec 16 points en bas de classement. Saint-Etienne est 16e avec 10 points. Le Havre est 17e avec 9 points. Et Montpellier ferme la marche, lanterne rouge de ce championnat de France avec 4 points. On parle également de football, mais cette fois-ci en Espagne. Et ce, malgré les inondations meurtrières de la semaine dernière. Eh bien, les matchs de Liga ont eu lieu. Certains ont été annulés, bien entendu. Mais d'autres ont eu lieu. Et pour le correspondant François David, le correspondant de RFI en Espagne, c'est tout simplement une honte. On l'écoute.
C'est évident, évident que la Liga, que cette journée aurait dû être annulée. Tout le monde s'accorde là-dessus. Personne n'avait envie de jouer ce week-end. On l'a vu à chaque fois qu'il y avait des sites de manifestation en soutien aux victimes. Alors évidemment, Simeone l'a dit, c'est une voix importante. Je pense aussi à Vicente Moreno, moi, l'entraîneur d'Osasuna, qui vient de Valence, qui suit au match de son équipe ce week-end, a dû repartir chez lui, enlever la boue et aider les voisins et à voir ce qu'il y avait en dessous, des blessés, voilà, il était en pleurs, Moreno. Donc encore une fois, on voit que la Liga ne pense qu'à l'argent, ne pense qu'au fric. Que Javier Tebas aurait été honoré, on aurait été honoré de voir Javier Tebas, donc le président de la Ligue de football bien connu dans le monde, faire une trêve justement en disant, écoutez, on va pas jouer là, ça sert à rien, on pense aux victimes, une journée de solidarité, on en profite pour prendre des collectes et on pense à eux. Non, il a voulu jouer, le match Valence Real Madrid évidemment a pas été joué, le match de Villarreal, le match de Castellón aussi qui joue en deuxième division a été annulé. Moi je pense avant tout aux gens qui sont partis aider ceux qui étaient dans le besoin et qui ont fait ça de manière très bien, à la différence du président de la Ligue qui s'est pas honoré en faisant jouer cette journée.
François David, donc le correspondant de RFI en Espagne, qui traduit un sentiment général chez les fans de football espagnols. On parle de cyclisme maintenant. Le Tour du Faso s'est conclu ce week-end. Tour du Faso, c'est une course qui fait partie de l'égérie du Tour de France de ASO, donc l'entreprise qui organise le Tour de France. Mais cette année, le Tour du Faso avait été retiré du calendrier international puisqu'ils avaient invité une équipe russe. Et ce, malgré le désaccord de la Fédération internationale. Donc, le Tour du Faso avait invité l'équipe du CSKA à Moscou. Tour du Faso retiré du calendrier international, mais qui a tout de même eu lieu avec une victoire marocaine. C'est la 6e victoire marocaine dans l'histoire du Tour du Faso. Et cette année, c'est Moussine Kouradji qui remporte ce Tour du Faso. Donc, on écoute le directeur de l'épreuve, Martin Sawadogo. Il est plutôt satisfait d'avoir conclu ce Tour du Faso sans échauffourée. On l'écoute.
Je peux dire que le Tour a été une réussite parfaite parce que quand on regarde sur le plan sécuritaire, on était vraiment satisfait. Côté technique, les vitesses moyennes qui ont été enregistrées aussi, le niveau était vraiment bon. Par rapport aux Marocains, c'est des vieux briscards. Ils ont profité de la première étape, faire un grand écart. Les Russes, quand vous regardez le niveau là, je peux dire qu'ils étaient à 50% de la réussite du Tour. Maintenant, côté Burkina, on peut dire qu'effectivement, c'est des jeunes qui montent. Il faut être patient. Et nous profitons en même temps pour dire un grand merci à tous nos amis qui sont venus, que ce soit africains ou européens. Franchement, on ne peut que les féliciter.
Martin Sawadogo, donc le directeur du Tour du Faso. Alors, un mot de tennis pour conclure ce journal. Le français Hugo Humbert a perdu en finale à Paris contre l'allemand Zverev sur le score de 6-2, 6-2. Plus de 32 ans qu'un Allemand n'avait gagné dans le tournoi donc, de Bercy. C'était Boris Becker. Et on écoute Jérémy Chardy, l'entraîneur d'Hugo Humbert. Il évoque le pas en avant fait par son joueur.
Dans l'année, il y a plusieurs moments où il jouait vraiment très bien et j'attendais qu'il fasse un gros résultat. Malheureusement, ce n'était pas arrivé. Son meilleur résultat, c'était à Wimbledon où il avait fait 8e. Et c'était un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller à son rythme. Et puis, c'est une bonne surprise que ça se passe à la fin de l'année à la maison. Donc voilà, c'était quelque chose qu'il recherchait. Je pense que ça lui mettait aussi un peu de pression de vouloir avoir un gros résultat et de pas y arriver. Donc maintenant, c'est fait. Donc j'espère que ça va le détendre pour les prochains gros tournois et puis surtout les grands chelems parce que je pense qu'il faut qu'il arrive à être plus régulier et jouer mieux dans les grands chelems s'il veut continuer à monter au classement.
Jérémy Chardy. Donc voilà, et ça conclut le journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
h 26 minutes, vous écoutez le programme en français et comme chaque mardi, on fait le point sur la semaine politique en Australie en compagnie de Patricia Meunier.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
La semaine politique avec Patricia Meunier et cette semaine, une enquête du gouvernement sur la gestion du Covid-19 en Australie montre que la confiance du public s'est tout simplement érodée depuis la pandémie. La fermeture des frontières internationales, les longs confinements et les campagnes de vaccination ont été quelques-uns des facteurs contributifs. Les explications de Patricia Meunier.
4 ans après le début de la pandémie, une enquête sur la réponse de l'Australie au Covid-19 révèle que les choses peuvent être améliorées. les décisions courageuses et les mesures décisives prises au début de la pandémie par le gouvernement de Scott Morrison sont saluées. En revanche, le rapport pointe du doigt la perte de confiance des Australiens, en cause des restrictions prolongées et la fermeture des frontières internationales, et la qualité des communications du gouvernement pendant la crise. L'étude propose aussi des recommandations en cas de prochaine pandémie, parmi elles une meilleure préparation, bien sûr, et une délimitation claire des responsabilités entre le gouvernement fédéral, les États et les territoires. Il s'agira de savoir en avance qui est responsable pour gérer les quarantaines, les stocks de médicaments et les frontières. Une nouveauté également, l'Australie prévoit de créer un centre de contrôle des maladies d'ici le début de 2026. Plus de 250 millions de dollars seront consacrés pour créer ce pôle national de santé publique. On écoute Mark Butler, le ministre de la Santé.
Like most countries, frankly, our pandemic plans were grossly inadequate for the scale of the challenge that COVID-19 presented to us. The report makes clear, for example, that our plans, such as they were, included no plan that would deal with the closure of the international border.
Comme partout, des erreurs ont été commises. Selon une étude, le retard dans la campagne de vaccination en Australie a coûté 31 milliards de dollars en raison des confinements supplémentaires. On écoute encore Mark Butler.
Our response to the pandemic was not as effective as it could have been. And as a result of the lack of plans, leaders particularly were placed in the invidious position, to use the words of the report, of having to build the plane while it was flying.
L'économie tout entière a été affectée. Le trésorier Jim Chalmers revient sur les conséquences négatives de la pandémie.
Big decisions were taken and big mistakes were made. Those mistakes were costly and they were inflationary. Now, a big, substantial economic response was warranted by the pandemic. It was essential, but the report says, and I quote, there was excessive fiscal and monetary policy stimulus provided throughout 2021 and 2022, especially in the construction sector.
L'enquête sur la pandémie a certes révélé que la réponse de l'Australie était bien meilleure que celle d'autres pays dans le monde, mais elle met également en évidence les inégalités existantes. Les obligations vaccinales ont eu l'impact le plus négatif sur la confiance. Le ministre de la Santé, Mark Butler, souligne les conséquences à vie pour différents groupes de personnes, des personnes âgées aux personnes de cultures diverses. Il revient aussi sur un point central, la perte de confiance du public.
Crucially, this report says that a number of the points I've already made about the lack of real-time evidence-based policy and the lack of transparency has driven a large decline in trust, which the panel members say, and these are their words, means that many of the measures taken during COVID-19 are unlikely to be accepted by the population again.
Les recommandations soulignent l'importance d'une meilleure préparation et d'une meilleure coordination entre les gouvernements. Cette préparation est essentielle car la réalité d'une nouvelle pandémie semble inévitable.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
13h34 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On parle maintenant du Melbourne Cup avec le professeur John Maynard, un historien de l'histoire des Australiens autochtones et du sport, en particulier des courses de chevaux. La conversation avec le professeur Maynard découle de son livre « Aborigines and the Sport of Kings », une exploration captivante de l'implication des autochtones dans les courses de chevaux en Australie. Le professeur John Maynard est avec notre collègue Bertrand Tungandame.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Professor John Maynard is a distinguished Wurundjeri historian and the chair of Indigenous history at the University of Newcastle, renowned for his groundbreaking research on Aboriginal political activism and contributions to Australian historiography, including his influential book, Aborigines and the Sport of Kings. I'm glad to say Professor Maynard has joined us in the context of Melbourne Cup 2024. Professor John Maynard, first of all, thanks for accepting our invitation to share your insights into First Nations participation in the racing industry.
It's a pleasure, buddy.
Going straight into the topic of the day, how has First Nations participation in Australian horse racing evolved since the early days of the sport, and what progress do you see leading up to the 2024 Melbourne Cup?
Our involvement with racing goes back a long way, and I mean it goes back to our take up into the stock industry, and Aboriginal men and women were the backbone of the Australian stock industry. And through that process of horse riding, many displayed great skills in the saddle, and consequently in the 19th century were taken up as jockeys, and that progressed on into the 20th century. And I guess the two sports that Aboriginal people got a go at were boxing and horse racing, and in both of those instances your life is at risk. People die from race falls and they die in the ring, but other sports there were barriers, colour bars of barrier to Aboriginal people participating. So horse racing and boxing gave us an avenue for sporting involvement. Across recent decades, of course, I mean, the last four or five decades, I mean, the doors have opened to AFL and rugby league, and that has changed that dynamic. And we don't see as many Aboriginal jockeys and certainly Aboriginal boxers as we did in the past, because the big sports for us, you know, with the doors open, of course, rugby league and AFL.
And what were the barriers, if there were any? Because you spoke about barriers briefly, but in horse racing, what were the barriers for First Nations jockeys, trainers and owners?
It's an Aboriginal background. There were barriers to us right across the board in this country. Acceptance as people, as the First Nations people of this continent, and following invasion, occupation, dispossession, cultural destruction, children being taken away, all of the things that impacted onto us, and the confinement on Aboriginal reserves and missions, incredible control over Aboriginal lives. So these were the barriers that faced Aboriginal people across, you know, every aspect of life in this country for so many decades, which we're still trying to resolve.
Yeah. And Frank Reyes remains the only Indigenous jockey to win the Melbourne Cup.
Mm.
What factors do you think have contributed to the lack of Indigenous representation after such a groundbreaking result that he actually ushered in?
Frank Reyes, an outstanding jockey, and his win on Gala Supreme in the 1973 Melbourne Cup remains as our high point as far as the Melbourne Cup is concerned. But as I said before, I mean, the reality is that from that particular point in time, that was when the doors to other mainstream sports like rugby league and AFL began to open. And there were opportunities for Aboriginal kids to come onto the football field in both of those major codes. And of course, also, the stock industry is certainly today not what it was in the past. And so the Aboriginal people, you know, coming into the racing industry and following on Frankie Reyes's incredible achievements haven't been followed up, if you like, and that incredible success which we all enjoyed with Frank's brilliant ride in 73.
Yeah. Some steps are being taken to actually increase First Nations participation in the industry. Can say Racing Queensland has got a First Nations strategy, and Racing Victoria has also got an Aboriginal and Torres Strait Islander Employment Progress Program in increasing First Nations participation. How do you see the role of these initiatives actually succeeding in really strengthening First Nations participation?
Well, these are positive. These are really positive moves, and it's certainly something that's required. But as I said, in some respects, the horse has bolted, and you know, Aboriginal kids are looking to rugby league and AFL, you know, and that's men and boys and girls as far as sporting opportunities are concerned. But yeah, there is still a magnetism for us as far as the horse and racing, because there is such a long history there. And I hope those initiatives really come to the fore and produce other great riders, like, you know, Darby McCarthy, of course, you know, come from Cunnamulla and one of 12 in the family. And Darby, in an interview, said to me, I didn't come from the top end of Cunnamulla either, brother. Yeah. He said, on one side we had the sewerage outlet and the other side we had the garbage tip. But Darby McCarthy won the Epsom Handicap and the AJC Derby at Randwick in the one afternoon in 1968, and went on to ride in France. And he lived in a two-story mansion in Chantilly with a French maid and a chauffeur-driven car. You know, that was the incredible journey that he undertook. And, I mean, I have to say, I grew up on the race course in Newcastle. My father, Merv Maynard, was a top jockey. And the reason why I wrote the book, you know, Aboriginal Stars of the Turf and Aborigines in the Sport of Kings, was because I grew up alongside, you know, looking at Aboriginal jockeys like my father and Stan Johnson, Normie Rose, Gordon Taylor, Dennis Taylor. You know, all of these jockeys were riding, as I saw as a kid, right in front of me face, but they weren't in the racing histories. And that's why I wrote the book, because to, you know, bring to the wider attention the incredible history of Aboriginal involvement with the Sport of Kings.
Yeah, the Sport of Kings, and the King was here not a long time ago, last week actually, and well, one of our politicians didn't miss the opportunity to raise some rights and sovereignty questions. In your research, how has the recognition of Indigenous land rights and cultural heritage impacted the racing industry?
And well, I think they, like many areas of Australian society, have a long way to go in recognising, you know, and that's what the country faces as a whole. You know, we are the sovereign people of this country, and our sovereignty has never been given. I mean, we acknowledge our connection to the country from the time before time began, and that's where we are. If the country is ever to heal and deal with the past, it needs to recognise this history. It's a great history, and recognising upwards of 65,000 years of Aboriginal history, which is this country's greatest treasure.
Yeah. And looking at the 2024 Melbourne Cup, how do you think increased awareness of Indigenous history in racing might influence public perception and engagement with the event?
Well, I think that they could do a lot more with that, and I think and promote that, you know, some of these stories. I mean, certainly, you know, I'm thinking of revising my book for next year, for 2025, and coincide it with the Melbourne Cup in 2025. But, you know, you're quite right. The racing industry does need to recognise. You see, football are doing that in a big way today, you know, with acknowledging Indigenous presence in their games, and promoting that connection in a big way, because it's such a strong connection. And racing to this point hasn't really done it. And, I mean, I think the door's open for them to take up that baton.
Yeah. And I think sometimes, but that's just a personal view, that financial issues could be one of the... Finance could be one of the factors, because getting into the industry is a costly thing, whereas things like rugby league or AFL or even boxing, entry to get into the sport is relatively accessible compared to racing.
Yeah, well, I know that in the past there are a lot of opportunities for Aboriginal kids to ride. I mean, certainly in horse racing, because if they were light, I mean, you got to go, and if you were good enough, you certainly, you know, went up the ladder as far as that's concerned. And we've had many great riders. And, you know, it was a hard sport. And as I said, people got killed in racing. And my father, in his apprenticeship, lived in the stable of a trainer at the race course. I mean, in a little room, you know, that was attached to the stable. Aboriginal people, like others, lived in poor conditions in their early times as jockeys. These were hard apprenticeships, and that's the story of the game, particularly in those early days.
And you just mentioned some really tough conditions. In your research, have you found examples of traditional indigenous horse practices or knowledge?
First off, I mean, of course, Aboriginal feared the horse because, you know, people were riding around with guns and shooting Aboriginal people. And, I mean, you know, having not seen the horse before, it was like in North America. I mean, you know, Native Americans and Aboriginal people here developed a great fear of the horse. The horse gave settlers an incredible advantage. They could cover distances at speed, and of course the intimidating nature of a large animal was put Aboriginal people off. But there are records of Aboriginal people stealing horses and making bark saddles and teaching themselves how to ride, traditional Aboriginal people teaching themselves how to ride. And that's the connection Aboriginal people have always had with certainly animals, and that was a deep connection. I remember my interview with Darby McCarthy, and I mean, that showcases, you know, Aboriginal connection to animals. And he said to me, brother, he said, look, I had a great career, but it's all due to those beautiful animals. They carried me, and that's the reason why. But it also goes to that connection that Aboriginal people have with animals, and that's certainly the case with horses.
Yeah. Now, Professor Maynard, you've been really very generous with your time, but before I let you go, any final thoughts you'd like to share with us?
Oh, look, I think it's, you know, it's like so much of our history, you know, horse racing and our involvement with it is, it's our history is like a giant jigsaw puzzle with most of the pieces missing. So we're still in the process of putting those pieces back into the puzzle. So this is just one of those stories, and important stories that we all carry. And I encourage our mob out there to get in and do their family and community histories, put their stories together, because this is the importance we need. I mean, I come through a school system of the 50s and 1960s, and we weren't in the history of this country. It was all about discoverers and explorers and settlers and white sportsmen. And, you know, they were the stories that were being taught and are still to this day retained in many respects. But our stories are critically important in coming to the fore and telling of the courage and brilliance of our people over the last 230-odd years.
Professor John Maynard, thank you very much for taking the time to talk to us on NITV Radio today. It's been a really, really great pleasure getting your insights into the racing industry today.
Pleasure for me too, buddy. Thank you.
Et enfin, d'émission, rappel des grands titres, jour J aux États-Unis avec au moins 75 millions des voteurs américains qui ont déjà voté par anticipation. Le vice-premier ministre australien Richard Marles a déclaré que l'alliance entre les États-Unis et l'Australie resterait forte quel que soit le résultat des élections de ce mardi. Les défenseurs des Premières Nations exhortent le premier du Queensland à rétablir l'enquête sur la vérité. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, 7 novembre, à partir de 13h sur les ondes de SBS en français. Très bel après-midi et à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.